Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter.
Toute la troupe du Grand Dimanche Soir vous propose des florilèges ce soir. Et pour que cette émission démarre, comme tous les Grands Dimanches Soirs, on demande à notre réalisateur François Audouin. François, top antenne.
En public, mais pas en direct, du studio 104 de la Maison de la Radio de la Musique, vous allez vivre les meilleurs moments du Grand Dimanche Soir.
Parce que c'est notre projet.
Deux heures de surprise, du rire, de l'émotion, de la musique avec Julien Darnaud, Guillaume Meurice, Émeric Lompré, Chewbacca, Léo Carman, Constance, Jamil Le Schlag, Douli et Frédéric Fromet. La jeune pousse de l'humour, Lala Sania. Vous aurez le plaisir de réentendre en live La Poison et Gwendoline. Et bien sûr, la reine de la satire politique, la queen de la rigolade, celle qui, en avril, ne se découvre pas d'un fil de l'actualité vie, qui n'attend pas non plus, mais pour blaguer sur ce qui lui plaît, Charline Vanhoenacker.
Le Grand Dimanche Soir. Le florilège.
Bonsoir la France Inter. Et profitons bien de cette soirée avant que la France n'entre en guerre contre la Russie. Vous riez, vous. Le président a dit qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Après, il avait aussi dit que plus personne ne dormirait dans la rue et qu'il ferait barrage au RN. Toutefois, si vous inscrivez votre enfant au SNU, vérifiez bien la destination du stage quand même. Si c'est Clermont-Ferrand ou Kiev, c'est pas pareil. Alors on n'en est pas là, bien sûr, mais si ça arrive, les hommes en âge de combattre vont être appelés. Et là vous riez aussi ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Alors nous on peut fournir Guillaume Meurice et Émeric Lompré. Eh oui. Eh ben, vous comprenez pourquoi on cherche à tout prix à éviter un conflit. Moi, je miserais plutôt sur Walidia. Parce qu'il a un débit de mitraillette, ça peut aider. Alors, tous les pays d'Europe s'opposent à l'envoi de troupes au sol en Ukraine, mais Macron, il devait en avoir marre de s'embrouiller avec les Français. Il s'est dit, tiens, et si je m'embrouillais aussi avec tous les Européens ? Dans cette perspective, le président a consulté beaucoup de gens, qu'on va peut-être se retrouver en guerre contre la Russie, et Macron a consulté François Hollande. Qui prépare la guerre prépare aussi la défaite. Quand Poutine a su ça, il s'est dit « Merde, Hollande ! C'est le mec qui disait « Mon ennemi, c'est la finance, c'est ça ?» Oh putain, on est foutus. Ensuite, Macron a convoqué tous les chefs de parti pour évoquer la stratégie de l'aide à l'Ukraine. Donc visiblement, sur ce dossier, les conseillers McKinsey ne suffisent plus. Et donc, il a consulté Éric Ciotti. Tellement fort en stratégie de guerre qu'il avait réussi à se faire exempter de service militaire. Fabien Roussel, lui, a déclaré qu'il était très inquiet. Bon, après, Fabien Roussel, il flippe déjà devant un tweet de Sandrine Rousseau, donc bon. Et puis mardi, il y aura un vote symbolique à l'Assemblée nationale sur un accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. La Ciotti a déclaré qu'il voterait pour, Roussel qui voterait contre, et le PS hésite. Le PS, ils hésitent juste parce qu'ils n'ont plus l'habitude qu'on leur demande leur avis. En fait. Jordan Bardella, lui, s'est plaint d'être ostracisé parce que Gabriel Attal a assimilé le RN aux troupes de Poutine. N'importe quoi. Le RN, c'est pas du tout les troupes de Poutine. C'est juste son débiteur, son relais d'opinion et même son soutien avant la guerre. Mais pas ses troupes. Heureusement, pour éviter le conflit, il nous reste la diplomatie. Et là, on a de la chance. Parce qu'on a, pour ministre des Affaires étrangères... Ok, on va tous aller acheter un casque, ce sera plus prudent. Hein.
Le Grand Dimanche Soir, les meilleurs moments.
La bonne réponse était Stéphane Séjourné. Bravo aux trois personnes dans la salle sur 800 spectateurs qui ont trouvé.
Qui sont donc de la famille de Stéphane Séjourné.
Mais vous avez l'air de faire la tête, Aymeric.
Oui, Charline. J'ai pas trop apprécié votre billet. Moi, je serais très bon à la guerre.
Ouais. En tant que quoi?
Chef cuistot.
Tu sais cuisiner quoi?
Raclette et flunch.
Ok, donc on va perdre.
Ouais, bah, moi non plus, j'ai pas trop apprécié Charline.
Ah bon? Mais vous feriez quoi à la guerre, vous, Guillaume?
Des livres.
Et vous, Charline?
Ah ben, moi, je suis chef. Donc, ouais. Je ferai tout ce qui est les cartes, la boussole, la stratégie.
Ouais, planqué, quoi, comme tous les chefs.
Allez, la musique, parce que le grand dimanche soir, c'est avant tout du live.
France Inter, le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
Originaux aussi, ceux qui sont arrivés sur cette scène du TAP de Poitiers, car la musique nous accompagne, ils sont trois. La Poison, cher Djoubaka, c'est l'heure de la reprise.
Hein. Et oui, et ils vont reprendre sur la planche du groupe français La Femme, donc c'est un hymne qui est de 2014, récompensé il y a 10 ans. Par une victoire de la musique et tout le toutim, badadadadadada. Alors, gloire leur soit rendue. Et comme le dit la chanson, gare à celui qui veut m'empêcher de rester sur la vague quand je suis invincible. La Poison, c'est à vous.
Debout. Merci beaucoup, La Poison, bravo, c'était Moon.
Daniel Jamal à la guitare, David Ménard, batterie et machine. Et bien sûr, aussi parfois dans la playlist France Inter, c'est peut-être là que vous l'avez découvert. Cette émission, c'est un véritable spectacle radiophonique, les amis, un show radio dans vos oreilles. Et venez nous voir aussi, la billetterie est ouverte pour dimanche prochain. Nous serons de retour à la Maison de la Radio et de la Musique. Les places se réservent gratuitement sur son site.
Le grand dimanche soir. Le florilège.
Alors, il y a un point commun entre un journal de blagues et traverser la rue, c'est qu'il faut d'abord regarder à gauche, puis à droite, afin de ne pas se laisser écraser par le poids du monde.
Wow. Ouais. Ça, c'est bossé, ça. Hein.
Alors, place aux bonnes nouvelles de la semaine.
Ce matin, en quittant bientôt le 110 rue de Grenelle, je me sens plus aguerrie que jamais et le regard tourné droit devant vers l'avenir, la tête haute, prête à soulever des montagnes pour servir mon pays.
Le journal des bonnes nouvelles.
Personne ne frappe aussi fort que la vie. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est comme ça qu'on gagne.
Et on commence avec une très 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 bonne nouvelle, Guillaume. Ah. Frédéric Valletoux, le ministre de la Santé, a déclaré que jamais l'hôpital n'avait été aussi bien accompagné que ces dernières années.
Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, j'ai une question, Charline.
Allez-y, Guillaume.
Parce que le fameux Frédéric Antipou, là.
Valletoux.
Il est ministre de la Santé de quel pays exactement?
La France, c'est notre ministre de la Santé.
Ah d'accord, ouais. Ah bah première nouvelle. Ah bah enchanté monsieur Raptou.
Valletoux.
Ah oui d'accord.
Valletoux. Grâce à des charges, il a dit que l'hôpital était bien accompagné. Il n'a pas précisé vers où on l'accompagne.
A priori, c'est dans le mur, quoi. Voilà. Ouais, très bien.
Ok, donc là, on peut dire qu'il n'a jamais été aussi bien accompagné que ces dernières années.
Bah voilà, il a raison, monsieur Toutou. Allons-y.
Allez, on commence par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a rappelé que les membres du gouvernement sont tenus de répondre aux questions des députés après une non-réponse de la ministre Patricia Mirallès.
Voilà, alors attendez, Charlie. Non, arrêtez d'inventer des noms de ministres parce que j'ai rien dit tout à l'heure, là, pour Siro. Pour la toux, j'ai fait semblant.
Valletoux,
voilà. Si vous voulez, mais ça va se voir que vous dites n'importe quoi. Hein, Patricia Mirabel, ça n'existe pas.
Mirallès.
Allez, on enchaîne, d'accord, voilà. Super. Allez.
Ça va être long cette année.
Allez.
Le ministre des Transports.
Faites très attention, Charline, à ce que vous allez dire.
Le ministre des Transports, Patrick Vergriet.
Arrêtez de dire des noms au pif, c'est un journal sérieux quand même là.
C'est Vergrieteux, je sais pas, mais non, mais je vous promets, c'est le ministre des Transports.
C'est fatigant, les gens sont fatigués, on est fatigués, Charline, par votre comportement.
Je suis désolée, politique.
Oui, allez-y.
Bon, alors, on va aller de l'autre côté, ça ira mieux. Cette semaine, la gauche française.
Charline, c'est le journal des bonnes nouvelles, vous parlez de la gauche française.
C'est vrai.
Ce n'est pas crédible, reprenez-vous s'il vous plaît, nos auditeurs méritent mieux que ça.
C'est News.
Voilà. Ah, voilà.
C'est le point CNews de l'émission.
Évidemment.
CNews a créé la polémique en affichant à l'antenne une infographie présentant l'IVG comme la première cause de mortalité dans le monde.
Alors que CNews reste la première cause de mortalité cérébrale en France.
C'est vrai.
Ah, voilà.
Et puis pour réduire les dépenses et lutter contre l'inflation, le PDG de Kellogg's a conseillé de manger des céréales pour le dîner.
Attendez. C'est Macron, le président de Kellogg?
Ah ben non, je crois pas.
Non, parce que j'ai reconnu le style quand même, ça ressemble vachement.
Ouais, je vais vérifier. Parce que jamais, si ça se trouve, les Chocapic, c'est...
Bah oui, c'est
bah, voilà. Alors, bon. À propos de style, il est temps de donner la parole à notre expert, je dirais notre spécialiste en à peu près tout. Aymeric Lomprey, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Écoutez, Charline, aujourd'hui, je vais vous parler de l'interdiction d'appeler un steak de soja.
Ah oui, ça c'est très bien, c'est parce qu'on a appris ça cette semaine. C'est-à-dire que c'est comme le jambon, on pourra plus dire jambon végétal pour ne pas tromper le consommateur.
Oui, et je trouve ça très bien.
Ah bon?
Oui, j'en ai un peu marre de me tromper. Hier, j'ai mangé des langues de chat, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est des gâteaux dégueulasses. Les princes, c'est pareil, y a pas Albert de Monaco dedans. C'est du chocolat et du sucre.
Oui,
oui. Et Charline, les Chamonix, c'est pareil, c'est pas des petits bouts de ville à la montagne, c'est plein de gras. Pareil, les tomates cœur de bœuf, c'est plein de flotte, pas un seul morceau de viande.
Oui,
Charline. L'autre jour, j'ai pris une dame blanche en dessert, patatri, patatra, c'est même pas Nadine Morano qui est arrivée. C'est de la glace et du chocolat dans le gratin dauphinois, Charline. Il n'y a pas de dauphin.
Oui, on a compris. On a compris.
Charline, cessez de me couper. C'est insupportable. J'appelle mon avocat. Oh non, mince. Je me suis encore trompé. J'ai pris le fruit.
Stop.
France Inter, le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
Ne l'encouragez pas non plus. Enfin, vous êtes tellement premier degré, vous êtes éditorialiste, vous devez sentir comme ça l'actualité. Enfin.
Ouais, ah, si seulement j'avais encore mon texte. Non mais je sens plus rien, j'ai un rhume.
C'était ça le texte. C'était pas mal écrit d'ailleurs. Merci à tous, merci Guillaume, merci Aymeric. Prochain point sur l'information. Je vous propose de laisser faire les professionnels qui, eux, ont imprimé leur texte. Évidemment, avec nous, avec le journal de la rédaction et tout le flair, évidemment, à 19h. Alors, Juliette Arnaud.
Il a dit patatrie, patatra. Je m'en fous, je dénonce.
Et sûr, je suis sûr qu'il l'a écrit.
Oui, possible.
Avec ses petites mains sur son clavier. Ça prend un thé ou deux thés, j'imagine tellement.
Ah, il y a un thé.
Bon, allez, on enchaîne. Juliette Arnaud, c'est le moment à 18h26, là, par là des classiques. Les tracteurs sont rentrés dans les fermes, mais durant ces 15 jours de mouvement social, vous avez eu le temps de relire les 600 pages de La Terre d'Émile Zola, 15e volume des Rougon-Macquart qui traîne une réputation sulfureuse.
Oui, alors comment qu'elle est, cette condition paysanne sous le Second Empire? Bah, le plus simple, c'est de citer la terre. On a beau faire des révolutions, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, le paysan reste le paysan. Mais encore, si le paysan vend bien son blé, l'ouvrier meurt de faim. Si l'ouvrier mange, c'est le paysan qui crève. Bon, donc rien n'a changé. Donc après le monde politique, après les petits commerçants, les ouvriers, les curés, les bourgeois de province et de Paris, Zola s'est donc emparé du monde paysan. Et comme c'est Zola, eh ben il va pas faire dans le pastoral, le bucolique, le tendre et les jolis sentiments. Ici, tous les personnages du roman sont habités par la passion de la terre, la grande travailleuse, éternellement à la besogne. La terre impitoyable aussi, je le cite, il parle d'un vieux paysan et il dit de lui, Zola, il avait aimé la terre en femme qui tue et pour qui on assassine. Les paysans dans la terre sont souvent pauvres, ils travaillent comme des chiens. Comment est-ce que ça les rendrait pas impitoyables? Après tout, le malheur n'embellit que les écrevisses. C'est un proverbe russe. En malheur, ils s'y connaissent, les Russes. Dès la parution du livre, il y a eu une tribune dans le Figaro. Quand je vous dis que rien ne change. Une tribune pour beugler en disant « Zola, le maître, est descendu au fond de l'immondice ». Ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que dans ce livre, c'est vrai que c'est l'appât du gain, la violence qui en découle, l'avidité, la ladrerie, l'inceste, le viol, beaucoup. Le meurtre, un certain nombre. Bref, à côté, Germinal ou l'Assommoir, c'est « oui, oui, s'achète un parasol ». Je devrais détester, mais voilà, l'outrance jusqu'à la bouffonnerie d'Émile Zola me fait rire, et je la traque jusque dans le choix de ses noms propres. Ainsi, le village en question s'appelle « Rogne ». Dans la fratrie qui est au centre du roman, le fils cadet est surnommé Buteau, tellement il est buté. Vous verrez, il est buté jusqu'à l'abominable. Le fils aîné, qui est braconnier et très clairement ivrogne de profession, est surnommé Jésus-Christ. Et lui-même, Jésus-Christ, n'appelle sa fille unique que la trouille. Et c'est pas parce que sa fille a peur de son fouet qu'il la surnomme de la sorte. J'ai cherché dans le dictionnaire historique de la langue française pour comprendre pourquoi il l'appelait la trouille. Figurez-vous qu'en vieux français, trouille vient du mot colique. Trouiller en dialecte veut dire lâcher un paix avec des excréments. Or, Jésus-Christ, et ça Zola est très précis là-dessus, dit qu'il est très venteux. Et Zola, qui est définitivement bien espiègle, donne à Jésus-Christ un trait unique dans le livre. Il est le seul de tous les personnages à se foutre de la passion de la terre. À la fin d'un chapitre où les vents de Jésus-Christ tiennent beaucoup de place, et qui est mon préféré, il y a un instant de philosophie narquoise à base de « tout ça ne vaut pas un paix ». Et Zola conclut le chapitre de la sorte. Il écrit « levant la cuisse, au-dessus de la vallée noyée d'ombre, Jésus-Christ en fit un dédaigneux et puissant, comme pour en écraser la terre ». Voilà. On a les révoltes qu'on peut. Merci, bisous, merci.
Le grand dimanche soir, le florilège.
Et à présent,
Ce roman de Zola va faire l'objet d'une adaptation dans le petit théâtre radiophonique du Grand Dimanche Soir. Le personnage de Jésus-Christ est toujours là en 2024, toujours ivrogne, et incarné par Aymeric Lompré. Sa fille, la Trouille, tient un café dans lequel on trouve deux clients, Douli et Guillaume, tandis que dehors gronde la colère des agriculteurs.
Bonjour, bonjour!
Non, alors là, papa, je te préviens, t'es prévenu, hein. Tu embêtes le monde, tu sors, tu pètes, tu sors, t'es bourré, tu sors.
Ouais, t'as bien raison, la Trouille.
Bon, bah, sauf elle.
Ouais, t'as bien raison, la Trouille.
Mais non, mais enfin, je viens juste prendre des petites nouvelles de ma petite Fifi, comment qu'elle va, celle-ci?
Oh, tu sais, franchement...
Ouais, mets-moi une bière, quand même. Hé, dis, t'as vu tous les tracteurs qui sont garés devant, là, toi? Hein? Il se passe quoi? C'est le salon du plouc 2024?
Non, non, ce sont les agriculteurs qui manifestent.
Oh, les agriculteurs, casse la tête, toujours gné gné gné, l'Europe nous vole, gné gné gné, le givre a bousillé mes carottes, gné gné gné, je peux pas me marier avec ma chèvre.
Oh, hé hey. Oh
ah, on
hey. Vous entend, hein
hey, qu'est-ce, oui. qu'il a, le, qu'est-ce qu'ils ont, les pecnos, là
Oh, sache que nous, les agriculteurs, sans nous, tu serais... sans nous, tu serais...
Tu serais pas aussi gros.
Ah, voilà.
Hey, qu'est-ce qu'il veut, là? Je suis pas gros, les cutéreux, là.
Bon, allez, ça suffit. Calme-toi, papa. Regarde-moi dans les yeux. Détends-toi.
Qu'est-ce que t'essaies de me faire, là? De l'hypnose? Hein? Ça va, Gérard Miller?
Oui, nous, au Grand Dimanche Soir, on est fondus d'actu.
Non, mais attends, tu te rends pas compte que le travail des agriculteurs, il est harassant.
Harassant?
Ouais. Ouais.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire fatigant, comme toi.
Fatigant? Ouais, c'est sûr.
Ouais, on travaille comme
attends,
des chiens.
Attends, attends, laisse-moi dire ma réplique.
J'avais envie de te gueuler dessus.
Ah ouais? À l'hôpital Belpo? Non, alors. Et harassant? Vous êtes sûr qu'harassant? Attends, Douli. Ah, vous êtes sûr?
Et tu parles pas comme ça, ma femme.
Ouais, vous êtes sûr que c'est pas la sauce rouge, là, que j'aime bien, qu'elle me fait péter piquant?
Non, ça, c'est la harissa. T'as bien fait d'insister pour
ouais. Comme tes chiens, de 5h du matin jusqu'au coucher le soir à 22h. Ça nous amuse.
Putain, apparemment, vous avez pas pris le temps de vous brosser les dents, merde, putain.
Ouais. Voilà, vous répondez par quoi? Du mépris, comme toujours.
Non,
hein.
Voilà. Je vous ne méprise pas, les fêtouilles.
Ça suffit, ça suffit, calmez-vous, ça suffit. On n'est pas là pour dire n'importe quoi, on n'est pas sur CNews. Oui, au Grand Dimanche Soir, on est fondu d'actu.
Oui, oui, et puis tu sais, sans nous, tu pourrais pas la boire, ta bière française, voilà. Tu serais obligé de boire quoi? Une bière allemande ou anglaise ou pire encore, belge.
Non, nom de Dieu, mais elle a raison.
Ouais.
Allez, viens la Trouille, ferme ton rad, on monte à la capitale.
Ouais.
Merci à la petite troupe de cette dramatique de Radio France et merci Juliette Arnaud.
Le Grand Dimanche Soir. Le Florilège.
Et on va changer de discipline artistique et de thème, parler de la classe ouvrière en musique. Oui, Djoubaka, vous construisez titre par titre une playlist politique et aujourd'hui avec ce tube.
Dirty old town, dirty old town.
Bravo.
Ah ouais.
Énorme tube des Pogs. Et quel est le message alors du Breaker?
Ben, on doit cette chanson à un Anglais et pas à un Irlandais, à Ewan McCall. C'est un militant communiste qui a œuvré dans le théâtre populaire et politique dès les années 30 de l'autre siècle. Il a écrit des pièces de théâtre très énervées. Et puis il va subir les foudres de la censure, être étroitement surveillé. On va même lui interdire de monter sur les planches. Bon, c'est un gars qui a une influence, et notamment du mouvement artistique des Angry Young Men, les jeunes hommes en colère qui vont faire pour métier de mettre des grosses baffes à l'établissement anglais. Et McCall aime aussi chanter et se passionne pour la musique folk. On lui doit quand même 300 chansons, c'est pas n'importe quoi. Dont Dirty Old Town, qui dans sa première version est vraiment très courte, en 1949, un peu plus d'une minute. Elle avait été composée en fait pour servir d'interlude dans une pièce qui s'appelle, je vous le traduis parce que sinon c'est compliqué, Paysage avec cheminée, et, et permettre un changement de décor. Mais une fois le spectacle fini, en fait le public reprenait la chanson à tue-tête en sortant des représentations. profession. Donc la Dirty Alton, c'est Salford, une des villes ouvrières où le smog des usines devient une ombre permanente, où la pauvreté et l'exploitation du petit peuple va bon train, me voilà. Ils chantent donc une vieille ville sale, où on sent le printemps dans la fumée portée par le vent, et le narrateur va se fabriquer une hache bien aiguisée pour détruire ce lieu porteur de malheur comme un arbre mort. Allez, au revoir François. Ouvrière, ça peut servir. Hein.
Bien sûr, bah oui. Ah là, depuis le début de la saison, avec tous ces titres, on a déjà plus d'une heure de playlist. Hein.
Ah bah ouais, super.
Ah, le temps de rouler au moins 150 mètres sur le périphérique parisien. Il y a de quoi faire. Merci Djoubaka, quel puits de science musicale.
C'est incroyable.
Puits de science musicale. Alors l'autre.
Et encore, il a pas fait Mano encore. Après, ça va être incroyable.
Quoi, on n'en peut plus.
Dans Mano, vous voulez qu'on parle du message politique dans Mano?
Non, non,
pour faire une émission spéciale, Charline.
Il a raison, le fils du forgeron.
Il s'appelle Hakim, le fils du forgeron. Il y a un message dès la première.
C'est bien pour ça que je vous laissais pas parler.
Ouais.
France Inter, le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
Et on accueille, pour réveiller Fred, sur la scène de ce studio, une jeune humoriste. Voici Lala. Oh, venez Lala. Elle s'est mise au stand-up il y a 2 ans. Elle exerce encore un métier en parallèle. Je ne vous dis rien, elle va vous expliquer pour l'aider à calibrer sa prestation de 3 minutes au bout de 3. Voilà. À toi, Lala.
Merci beaucoup, Charline. Bonsoir, tout le monde. Alors, comme Charline l'a dit, je m'appelle Lala et moi, j'ai eu la chance de réaliser le métier de mes rêves. Je suis professeure des écoles. Merci.
Évidemment. Ça marche.
C'était vraiment mon rêve de petite fille d'entendre un jour des blancs m'appeler maîtresse. Petite vengeance, voilà. Et je me suis renseignée, hein, en tant que femme noire, pour entendre des blancs m'appeler maîtresse, c'était soit professeur des écoles, soit dominatrice BDSM. Et j'ai choisi la précarité. Bon, je parle de précarité, mais je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Là, avec l'inflation, c'est difficile. Il y a même des Français qui cumulent jusqu'à 4 emplois différents pour s'en sortir. Et il y a des gens qui sont maires, députés, ministres, sénateurs. En parlant de ministre, d'ailleurs, j'ai une pensée émue pour Amélie Oudéa-Castéra, qui aura tenu 28 jours au ministère de l'Éducation nationale. Et ça, ça s'applaudit. C'est une belle performance. Oui. Ah oui. Très belle performance quand on sait que moi, je voulais me barrer dès le premier jour. Ça fait 7 ans que j'enseigne. En 7 ans, j'ai vu plus de changements de ministre que de changements sur ma fiche de paye. Je me suis renseignée, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une évolution de carrière? On m'a dit, bah, il faut changer de carrière. Et là, on a une petite nouvelle au ministère de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Oui. Petite nouvelle. Bientôt 70 balais, là, Nicole. Hein, elle aussi, elle va pas tarder à nous quitter. Ah non, à quitter le ministère. Oui, voilà, oui. Et je vois venir les gens qui vont dire « Oui, les profs, toujours à se plaindre alors que vous avez plein de vacances. » Vous savez pas ce qu'on vit au quotidien. Imagine, t'arrives au boulot à 8h30. Il y a 30 enfants de 4 ans qui pleurent fort dans tes oreilles. « Ah, moi, je voulais pas venir à l'école !» Mais tu crois que moi, je voulais venir? Moi, je suis là parce que je suis payée. Tu crois que c'est facile, la vie? Tu crois qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, Emmanuel? Et pour tous ceux qui doutent encore que professeur est un métier difficile, je vous invite à passer une journée en maternelle. Venez le jour de la rentrée, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Et venez même si vous n'avez pas d'enfants. Hein. Bon, vous allez passer pour des gros pédophiles, mais ça va, on est en France. Hein. Au pire, vous aurez quoi, un César ou une Légion d'honneur? Je remercie, merci beaucoup. Merci.
Elle s'appelle Lala. Venez nous rejoindre. Vous asseoir parmi nous. Eh oui, parce que nous, on fait du stand-up assis, autrement dit, de la radio. Lala. On peut vous retrouver à Paris tous les mercredis en spectacle à la Petite Loge. Et les samedis, c'est à l'Apollo avec la troupe Historytelling où vous interprétez Rosa Parks.
C'est ça.
Hey. Et on peut vous suivre sur Instagram, @lavraielala.
Oui, c'est pour pas confondre avec les fausses.
Eh bien, je pense que grande partie du public de France Inter vous est acquis déjà après ces 3 minutes. Ah, oh, bah oui, voilà, évidemment.
Vous savez, cette émission alterne entre humour et culture. C'est un petit peu la douche écossaise, cette émission. Alors, je vous propose d'ouvrir le robinet du cinéma avec un jeune scénariste et réalisateur qui est aussi ici chroniqueur. Voici Léo Carman.
Merci. Parlons cinéma français aujourd'hui, mais pas celui qui signe les tribunes d'un ancien temps. Hein. Parlons plutôt du vrai cinéma français, celui du nouveau monde, celui qu'on veut voir parce qu'il nous fait vibrer, mais avec notre consentement. À l'approche des Césars, il me semblait opportun d'évoquer l'un des meilleurs films sortis de l'année dernière, toutes nationalités confondues. Un film d'une audace et d'une ambition dingue. C'est coécrit par Pauline Munier et Thomas Caillet, réalisé par Thomas Caillet. Bienvenue dans Le règne animal. Un phénomène étrange frappe la population française. Des hommes et des femmes de tous âges se mettent subitement à muter en animaux. Le processus est lent et progressif. Si les changements sont d'abord physiques, l'instinct sauvage finit par prendre le dessus et les créatures, comme on les appelle, peuvent devenir dangereuses. C'est ce qui est en train d'arriver à Lana, la mère d'Émile, 16 ans, jouée par Paul Kircher. Et là où Émile refuse de l'accepter, François, son père, interprété par Romain Duris, s'entête dans l'optimisme pour ne pas s'effondrer.
T'as entendu comme moi? Les traitements fonctionnent. Il y a des progrès signifiants.
Significatifs. Ta maman est calme, rien de comparable avec ce que tu as vécu avant que ton papa nous l'amène.
Avant que vous l'emmeniez. De force. Qu'on soit bien clair, moi j'ai amené personne ici.
François, on en a déjà parlé 100 fois. La garder avec vous, c'était pas une
Pourquoi
option.
Vous lui parlez comme si c'était débile?
Alors que Lana est emmenée dans un nouveau centre de traitement dans le sud de la France, rien ne se passe comme prévu. Elle et une quarantaine d'autres créatures s'échappent pendant le transport. La peur s'installe dans la région, les conversations ne tournent plus qu'autour de la question de les abattre ou non. Sont-elles des monstres ou encore des humains? Pas question d'attendre la réponse pour François et Émile, qu'ils se lancent à la recherche de Lana. Le temps presse, non seulement l'armée commence à s'en mêler, mais surtout, Émile se sent bizarre. Ses os bougent et se mettent à lui poser des griffes et des crocs. C'est clairement pas que les effets de l'adolescence.
Papa.
Mais cette catastrophe, il décide de la garder pour lui.
Papa, ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer?
Tu te souviens de ce qu'a écrit René Char? Tout ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience.
Ben, je crois que tout non, ça... Non, mais ça te dégoûtait pas? Physiquement, genre?
Bah, non. C'était différent, c'est tout.
Tu m'en veux que l'hôpital, ils l'ont emmené après qu'elle m'ait attaqué?
Je t'en veux de pas savoir conjuguer une phrase.
Derrière la fable écologique, le règne animal est une proposition bouleversante sur l'intolérance, particulièrement celle que l'on peut avoir face à nos propres émotions. Émile est en colère contre sa mère. En sombrant dans la maladie, elle l'a abandonnée. Mais comme il est moralement impossible de l'admettre, il préfère en vouloir à son père. Quant à François, il est terrassé par ce qui arrive à sa femme, mais comme un père se doit d'être fort, il refuse de le montrer à son fils. C'est en s'acceptant tel qu'ils sont et surtout tel qu'ils changent que François et Émile vont parvenir à se comprendre. Le règne animal est un grand film. À sa sortie, au vu des premiers chiffres, c'était un échec commercial assuré. Et puis, le bouche à oreille a déjoué tous les pronostics. Le film a dépassé le million d'entrées. D'aucuns parleront de miracle. Je pense que c'est encore la preuve que le cinéma doit cesser d'être à la solde d'un entre-soi hors sol, vénérant les monstres qu'ils appellent sacrés, mais plutôt être dicté avec humilité par ce qui fait sa véritable richesse, les belles histoires.
Léo Carman, merci beaucoup. Certains auditeurs auront vu le film, auront apprécié votre lecture, et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, donc...
Alors, Télérama le ressort dans son festival au cinéma en ce moment, et il est en VOD dans 10 jours.
Bah, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Léo Carman.
Le grand dimanche soir. Le Florilège.
Et puis elle fait aussi partie du voyage à Poitiers, ça lui fera tiens, un échauffement pour une future tournée d'un nouveau spectacle qui arrive tout doucement. Oui, je retourne mon regard vers Constance.
Et si les enfants n'étaient pas si dangereux, pourquoi donc y aurait-il des panneaux sur lesquels on pourrait lire « Attention aux enfants aux alentours des écoles » Merci, bisous, merci.
Oh là là, oh putain. Ah non, je me suis trompée, j'ai commencé ma chronique par la fin. Oh là là, du coup j'ai niqué ma chute. Oh, je suis tellement déçue. Oh, je suis encore plus déçue que le jour où j'ai appris que pédalo, c'était pas une insulte homophobe en espagnol. Oh. En plus, j'avais écrit des trucs super rigolos, comme c'était la journée mondiale des malades. Je voulais parler comme si j'avais le nez bouché pour faire des blagues comme « Bonjour les amis, je suis très embêtée, car aujourd'hui c'est la journée mondiale des malades. Non, pas des balades en forêt, des balades avec des microbes. Stop! Ceci est un détournement! Je viens sauver cette chronique de brun! Excusez-moi, mais vous êtes qui? Je suis la maladie! Eh oui, la vraie en glaire et en os! Oh. Et pardon, mais pourquoi vous parlez comme ça? Parce que les accents de brun, c'est aussi une maladie, hein? Allez, écarte-toi du micro, maintenant c'est moi que je chronique. Oh, alors là déjà, c'est ma chronique. Et en plus, à ta place, je la bouclerai, la maladie. Parce que c'est un secret pour personne, tout le monde te déteste. T'es une grippe en plein été, un diabète carrément bête qui embête, une gastro foudroyante pendant un cuni. Tout le monde voudrait que tu disparaisses. Ah ouais? Tout le monde, il voudrait que je disparaisse? Ah bah, je crois pas vraiment, hein. Comment qu'ils feraient les fleuristes pour gagner leur vie sans vendre des bouquets avec écrit « bon rétablissement » Stop! Personne ne bouge! Je détourne cette chronique! Et vous êtes qui, vous, maintenant? Je suis la guerre! Et pourquoi vous parlez comme ça? Pour créer une ambiance dramatique! Bon, désolé, vous êtes hors sujet, la guerre. Vous viendrez me détourner pour la journée mondiale de la paix, si vous voulez le bien. Aujourd'hui, c'est la maladie. Déjà, j'ai du mal avec l'autre taré, là. Oh, j'entends, hein, quand tu parles, hein. Justement, chaque guerre entraîne son lot de maladies. Choléra, rutabaga, topinambour. Eh ben, jour, ceci est un détournement. Ah non, mais là, moi, j'en peux plus, hein. C'est quoi ce passage? C'est une chronique ou le cul d'une pute? Non, mais attendez, laissez-moi deviner. Vous, avec l'accent du Sud, vous êtes quoi? Vous êtes le réchauffement climatique? Oh putain, oui, oh, peu cher. Je viens m'associer à la guerre, à la maladie. On va faire un malheur. On sera un trio meilleur que les Toubitries. Vous sortez tous de ma chronique immédiatement. Attention, c'est un détournement. Non, mais vous arrêtez. Il n'y a plus de place dans cette chronique. C'est saturé. Les gens ne comprennent plus rien. Moi non plus, je ne sais plus du tout où j'en suis. La chronique avait déjà commencé par la fin. Et maintenant, elle est sans fin.
Oh, moi, je vois bien la fin. C'est celle, la fin de l'humanité. Au fait, je suis la fin du monde.
C'était Constance. Et manifestement, elles sont encore plusieurs dans sa tête pour notre plus grand plaisir.
Le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
Charline, je vous sens à la fois proche mais lointaine. Est-ce que vous auriez déjà regagné le perchoir?
Eh ouais, je suis déjà perchée, Juliette, vous savez bien. Si on jouait maintenant à la démocratie, il y a 800 personnes dans ce studio qu'on va transformer en citoyens actifs dans une convention que j'ai l'honneur de présider. Je vous propose de débattre du congé menstruel. Cette proposition des socialistes a été rejetée par le Sénat jeudi. Elle prévoyait 2 jours de congé par mois en cas de règles particulièrement douloureuses. Je vous propose de refaire le débat pour tenter de trouver une issue plus favorable à cette proposition, parce que moi, vraiment, il faut que je vous dise, ce rejet, ça m'a fortement énervée, quoi.
Et peut-être que vous étiez énervée parce que vous aviez vos règles.
Bon, ben bah, voilà, c'est bien que ça arrive tout de suite, hein, comme ça, c'est fait.
Voilà. Alors on dit que le débat commence maintenant, peut-être c'est mieux. Hein. Alors le congé menstruel, on peut commencer par le définir peut-être. Qui veut l'expliquer ?
Moi.
Alors, moi. Qui veut l'expliquer ?
Là, ici, là.
Personne d'autre ?
Si, il y a moi.
C'est pas quelqu'un d'autre, ça c'est vous.
Moi, hein. je peux vous expliquer.
Allez-y, mais j'ai peur. Hein,
le congé menstruel, c'est comme un congé, mais qui tomberait tous les mois. Mm-hmm. D'où le terme mensuel. Désolé, Lélia, moi aussi je peux faire de la linguistique.
Ouais, c'est ça. Alors, l'Académie française, ça va pas être pour tout de suite. C'est menstruel, pas mensuel.
Bah, comment on dit quand ça arrive tous les mois ?
Mensuel.
Ah, c'est comme les règles alors ?
Bon, alors, le congé menstruel, donc, il est déjà en place dans plusieurs pays, alors pourquoi pas la France ?
Attendez, ça concerne que les personnes qui ont un utérus ?
Bah, alors, si c'est menstruel, a priori, oui. Hein,
mince.
Qu'est-ce qui vous dérange ?
Non, ça me dérange pas, c'est juste que bah, ça m'aurait arrangé que ce soit appliqué aussi aux autres, quoi.
Ah ouais ? Vous auriez préféré souffrir atrocement d'endométriose, peut-être ?
Non, mais comme j'ai un dossier à rendre pour demain matin, 8h dernier délai, je me disais que...
Vous vous disiez ?
Bah, j'ai un peu mal au ventre, là, en fait.
Allez, au boulot, feignasse, va. Oh, qui comprend la décision du Sénat ?
Alors moi, je suis d'accord, mais je suis aussi pour l'euthanasie.
Attendez, quel est le rapport ?
Bah, si des vieux croutons prennent des décisions qui concernent le corps des jeunes femmes, moi, en tant que jeune femme, je veux donner des directives. Absolument.
Merci.
Merci. Moi aussi, je veux donner des directives concernant le corps des vieux monsieur.
Attendez, parce que le vote, c'est plus tard. Hein. Mais voilà. Et donc, l'euthanasie, donc, c'est que... Ouais.
Bah, dès la sortie de l'hémicycle.
Ah ouais, d'accord. Bon, alors, voilà. Qui d'autre... Non. Qui d'autre est contre ?
Moi. Parce que c'est c'est inégalitaire. Ouais. Nous les hommes, on devrait aller travailler tous les jours et genre les femmes, non. Moi, je trouve que c'est abusé. Ouais, c'est...
Mais vous voulez pas essayer de vous mettre à la place des femmes un peu ?
Pour gagner un salaire de moins 25%, c'est mort. Ouais.
Madame. Elle le mérite ce congé supplémentaire.
Ah, merci. Vous revenez à la raison. Vous êtes favorable au congé exceptionnel comme ça ?
Ah ouais. Puis comme ça, quand ils n'iront pas travailler, ça leur laissera plus de temps.
Bah oui, pour récupérer, ouais.
Bah oui, pour préparer des petits plats, repasser les chemises, faire les courses,
j'aurais dû me douter que ça cachait quelque chose, ça, mais bien sûr. Écoutez, dans ces cas-là, je crée diversion en confiant la parole à un citoyen chargé de creuser ou détourner le sujet. Voici Jamil Le Schlag.
Merci, Charline. Merci. Ouais, les gars, c'est incroyable. Il n'y a rien qui va de nos jours, mais le Sénat donnait des congés au lieu de faire des sextapes. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'en ce moment, à la SNCF, c'est la grève. Mais vous voulez pas bosser un peu et écouter notre Premier ministre qui a dit « La grève, c'est un droit, mais travailler, c'est votre devoir !» Contre Kems, perso. Eh, perso, j'ai pas de problème avec la grève. Le hic, c'est que je suis en tournée un peu partout en France. Appelle-moi Dick Reverse. Du coup, plus de train. Et pour venir ici, j'ai dû prendre un moyen de locomotion légendaire. Tu connais le Flixbus ? Bon, on est en URSS, hein ? Bienvenue à Leningrad ! Alors, le Flixbus, phonétiquement, tu sais, ça sonne futuriste, ça sonne Marty McFly, mais en réalité, c'est un autocar ! Bah, comme au collège avec l'UNSS ! Et je me suis dit l'autre jour, mais qui a inventé cette connerie ? Et vous allez pas me croire ! Mais c'est Macron qui a manigancé ça ! Il a fait ça avant d'être élu. Bon, on aurait dû se méfier quand même. Putain, il y avait des signaux. Il a créé la troisième classe. Mais c'est à ça qu'on reconnaît la marque des grandes personnalités de l'histoire. Badinter, abolition de la peine de mort. Simone Veil, IVG. Et Macron, le Flixbus. Putain. Non, mais ce mot me rend dingue. Flixbus. On se croirait dans Mario Kart. Here we go. Mais, Dans ce marasme, il y a quand même une bonne nouvelle. Une nouvelle onctueuse. Le Conseil d'État et l'ARCOM sont sur les côtes de CNews. Et j'ai juste un mot à dire. Cher... Oula ! Oh là là ! Un petit goût sucré. Perle de lait, apparemment. La chaîne manquerait de pluralisme. Elle serait un peu trop à droite. N'importe quoi. À la rédac, les pauvres, ils sont en tachycardie. Non, c'est la liberté d'expression qu'on assassine. Mais excuse-nous, Voltaire. Hey, on a vu vos derniers éditos. On est loin de Manu Chao. Guten Tag, Mr. Minster, du Dubai Scheiße. Vananeker. Hey, moi, j'étais comme vous. Hein. J'étais surpris. Je me suis dit, tiens, mais il n'est pas québécois, Mathieu Bock-Côté. Et alors, du coup, ils vont donc devoir équilibrer l'antenne. Et mon rêve, c'est que l'ARCOM les oblige à transférer notre émission sur CNews. Bien sûr, eh oui, pour contrebalancer. C'est ça le vivre ensemble, Guillaume Meurice et Geoffroy Lejeune, main dans la main, t'es fredonnant, commandante Che Guevara. Ah, mais bordel! Et moi, j'ai hâte d'être dans les couloirs juste pour les rendre dingos, je parlerai qu'en arabe. Salam alaikum, c'est Pascal Abbas. Alaykoum, chez la baisse. Bekhir, allez, ça va. L'Ouali de la baisse, l'Ouali de la baisse. Alhamdoulilah. Atak al-Hamar Khanez Diel Bolloré. Voilà. Ce qui signifie en VF, hein, passe le bonjour à notre ami Vincent. Alors, en tout cas, je me vois déjà à la cafette de CNews. Salut Charlotte, oui, travail, famille, patrie. Moi, je suis né à Vichy, je connais. Donc, mais attends, ça sent l'Armagnac par ici. Oula, mais ça pue le rhum. Ils font des crêpes ou quoi? Ah, pardon, je t'avais pas vu, Elisabeth Lévy. Attends, non, mais pardon, hein, Elisabeth, elle te fait la bise. Bah, tu perds 4 points sur ton permis. Mais merci de m'avoir écouté, les amis. Merci.
Merci, Jamil Lechlag. En tout cas, je note confier le sujet du congé menstruel à un homme et il se plaint du Flixbus. Ça, c'est noté. Alors, pensez-vous que les sénateurs soient légitimes pour légiférer sur le corps des femmes? Je rappelle que la majorité sont des hommes et souvent plus très très jeunes. Hein.
Et alors, Gérard Larchi, c'est très bien ce que c'est que d'avoir mal au ventre. Ah bon? Ça lui arrive quand il reprend 2 fois de la tête de veau. Ouais. Après, il passe l'après-midi à avoir des crampes d'estomac et pourtant, il reste à son poste.
Les deux, vous êtes bien renseignés? Vous êtes...
Frédéric Valtoux.
Je connais pas.
Je suis le ministre de la Santé.
Ah, autant pour moi. Pardonnez-moi. C'est pas grave, vous pouvez rester. Alors, certains sénateurs craignent que cette mesure pose des problèmes sur l'efficacité économique des entreprises. Qu'en pensez-vous?
C'est vrai que les sénateurs s'y connaissent super bien en efficacité économique. Hein. Si demain le Sénat est disparu, on va perdre 3 points de PIB.
Oh là là, je sens une pointe d'ironie. Hein.
Ah, pas du tout.
Hein. Si, je rappelle les règles de cette convention, on ne se moque pas, on propose des solutions.
Je sens une pointe d'ironie, Charline.
Pas du tout. Madame la Présidente, déjà.
Pardon, mais moi, je suis malade. J'ai de la fièvre et je suis venu quand même à cette convention.
Merci, monsieur. Ça va aller? C'est pas trop grave?
Là, j'ai 37,3.
Ouais.
J'ai le nez qui coule. Ouais. Je me suis coupé en me rasant.
Ah ouais, vous avez un rhume, quoi.
Non, là, je crois que je vais crever. Hein.
Il y a un médecin dans la salle?
Oui, moi. Et mon diagnostic est simple. La maladie grave de monsieur, c'est que monsieur est un homme.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour ce débat qui a su, comme à chaque fois, aller au-delà des clichés. Et voici la question qui sera soumise au vote, tout simplement, pour ou contre le congé menstruel. Suspension de séance, je vous laisse délibérer et nous reprendrons à l'issue du journal d'information de 19h.
Le grand dimanche soir. Le florilège.
Les 800 personnes présentes ici vont voter la proposition de loi débattue juste avant 19h, tout simplement pour ou contre le congé menstruel. Alors, par applaudissement, qui est contre? On a 4 sénateurs dans la salle. C'est fou. Et là, par applaudissement, qui est pour? Cette proposition est adoptée. Et les florilèges du grand dimanche soir se poursuivent jusqu'à 20h avec Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Aymeric Lompré, Djoubaka, Constance, Jamil Lechlag, Léo Carman, Douli et Frédéric Fromet. Nos invités, Christelle Chollet, la comédienne, Gilles Perret, le réalisateur, et l'acteur Cédric Kahn. Et puis il y aura du live, bien sûr, avec La Poison, qui va nous faire une reprise de La Femme, intitulée Sur la planche. Et puis Gwendoline, qui reprend Macumba de Jean-Pierre Madère.
Le grand dimanche soir. Le florilège.
Cholet.
Merci, j'ai fait mon truc à moi. Well, you can tell by the way I use my womb, I'm a woman's now. Voilà, c'était l'entrée comme ça. Un petit truc comme ça.
Petit échantillon de ce qui peut vous attendre.
Et j'en ai plein.
L'Empiafé, c'est le spectacle qu'on peut encore voir aujourd'hui, que vous avez repris au théâtre de la Tour Eiffel à Paris. C'est un spectacle que vous avez joué vers 2006 jusqu'à 2011, et puis vous avez repris parce que c'est les 60 ans, il y a un anniversaire.
C'est les 60 ans de la disparition de Piaf, en fait, ouais. Piaf. Et je me suis dit que c'était intéressant et important, peut-être, de faire une petite parenthèse mm-hmm. pour un petit devoir de mémoire, comme ça, pour une femme qui rayonne encore dans le monde entier.
Et au centre de ce spectacle, donc, il y a Piaf, enfin, en tout cas, il y a les chansons de Piaf, et on comprend très vite le lien. Et il est évident entre vous deux, petit corps. Grande voix.
J'ai eu peur.
Mais petit cul aussi. Petit cul. Gouailleuse et sentimentale. Oui, ouais. Les deux, c'est possible. Ça commence quand, cet amour? C'est quand que l'effet miroir, il se fait avec cette
il
femme?
C'est très, très simple. Quand on est chanteuse et qu'on a ou comédienne ou artiste tout court, parce que moi je mélange tout dans mes spectacles, et qu'on a 18 ans et qu'on arrive à Paris, ben on n'a pas d'autre choix que d'aller chanter dans les bars, les cafés, concerts. Et puis moi, on me demandait tout le temps du Edith Piaf, donc j'ai chanté du Piaf. J'étais toute jeune. Mmh. Puis à un moment, je me suis intéressée au personnage et je me suis dit que toutes ces chansons, genre L'homme à la moto, tout ça, il y avait quelque chose d'autre derrière, que c'était pas forcément la petite femme en noir avec sa petite croix et sa chape de plomb sur les épaules, et que c'était une nana incroyable. Une Pygmalion a eu tous les plus beaux mecs de la Terre, à qui elle achetait tout le temps les mêmes trucs. Une nana qui a pris sa vie en même temps, mais c'est vrai, elle achetait toujours les mêmes briquets. C'est très rigolo de connaître sa vie vraiment. Je suis allée chercher une nana hallucinante parce que, ben, elle casse les corps. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie, elle envoie tout le monde chier quand elle veut, et c'est une femme à l'époque, et c'est dur à l'époque de faire un truc pareil. C'est une star internationale, vraiment. Elle part à New York, elle revient, elle a plein de galères, mais en même temps elle a une vie incroyable. Et je me suis intéressée à elle, en fait, et j'ai trouvé qu'elle était très drôle. Alors là, là j'ai pas été suivie par tout le monde, mais finalement,
mais oui, c'est possible de se marier avec Piaf.
Mais oui.
Est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit échantillon de comment vous arrivez à adapter les choses pour le rendre encore souligner la drôlerie?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand on réécoute les chansons de Piaf, il faut s'attacher au texte, comme dans toutes les chansons d'ailleurs, même à Aya Nakamura. Hein. Et quand on parle, par exemple, de la foule, on vous parle de quelqu'un qui est dans la foule et qui voit quelqu'un qui lui plaît beaucoup, ils échangent un regard brûlant, ils se croisent et tout d'un coup, la foule les arrache l'un à l'autre et ils se revoient plus jamais. Et je me disais, ce truc, c'est un truc de rue, c'est un truc assez violent finalement, et ça parle, et un rap m'est venu immédiatement. Et du coup, j'en ai fait un rap parce que le texte correspond vraiment à ce courant musical. Et ça fait un petit truc, on peut tous le faire ensemble, regardez, vous allez faire ça. Je vois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil, sous la joie, ouais. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, ouais. Perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain, je me retourne, ils se reculent et la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous entraîne à écraser l'un contre l'autre. Bon, on peut faire des heures comme ça. Ouais.
C'est Christelle Chollet dans L'Empiafé. Et puis vous serez en tournée dans toute la France avec un nouveau spectacle qui s'appelle Reconditionné.
France Inter. Le grand dimanche soir. Le florilège.
Et c'est Guillaume Meurice maintenant, c'est le moment Meurice que vous attendez tous, bien sûr, en direct, dans le grand dimanche soir.
Je vais vous parler de souffrance paysanne aujourd'hui, ce que Karine Lemarchand appelle de l'audimat, puisque c'est la révolte dans le monde paysan. Et moi, le monde paysan, je connais. J'ai grandi en plein milieu de la Haute-Saône, dans un endroit où il y a plus de porcs que dans toute l'Académie des Césars réunis. Donc, je connais vachement bien le sujet. Et je suis fan, je dois vous dire que je suis fan des méthodes de manif du monde paysan qui consistent à balancer de la merde sur des préfectures. Même, alors des fois ça fait un peu ton sur ton, c'est vrai, c'est comme pisser sur Joe Biden. Bon, ça sert à rien, le gars l'a déjà fait avant vous, des fois c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, c'est pas le sujet, le sujet c'est qu'est-ce qu'on en pense de ça dans les beaux quartiers, de cette révolte. Moi vous me connaissez, je suis un petit peu le Théodore Monod, hein, des doudounes sans manches quelque part, le Philippe Descola des SUV. Alors, je suis allé voir dans le 6e arrondissement de Paris, qu'est-ce qu'on pense de la radicalité dans la lutte ?
Il n'y a pas tellement de radicalité actuellement.
Bah, on parle de routes bloquées, de...
Ah, routes bloquées, bah, oui, mais moi je trouve qu'ils ont raison.
Ouais.
Bon, les tracteurs, ils bloquent tout, et à ce moment-là, on est obligé d'agir.
Bah, alors, est-ce qu'il faudrait faire ça dans toutes les luttes sociales ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, des manifestations
De quoi ?
De chômeurs qui bloquent les routes ?
Non.
Ça, non.
Non.
Non, non, voilà, ça, non, mais les paysans, oui, ils ont un capital sympathie de ouf. Si vous avez envie de piller un magasin, d'incendier des camions ou de tirer les poils de cul de Gérald Darmanin, si vous êtes paysan, tout passe en ce moment, parce qu'ils ont la FNSEA, les paysans. C'est un syndicat qui soutient des accords de libre-échange et qui après gueule sur la concurrence déloyale. Et c'est vraiment, c'est comme la Elia qui se plaint que personne pige rien à ses chroniques, mais qui parle de palimpseste euphémisé ou de psoriasis syntaxique. Vous voyez, c'est toujours très, très paradoxal. Mais bon...
La FNSEA fait son travail. Je pense que c'est un syndicat responsable.
Mais est-ce qu'ils ne défendent pas un peu la loi du marché aussi ?
Non, mais moi, je n'ai pas envie de dire du mal de la FNSEA. Je suis de ceux qui pensent que les écolos radicalisés font du tort à l'agriculture.
Voilà, c'est toujours mieux, c'est mieux de dire du mal des écolos radicalisés. Hein. Et là, je ne parle pas, tu vois, d'Emeric Lomprey qui prend de la coke bio, du LSD éco-responsable. Non, ça n'a rien à voir. On parle de qui quand on parle d'écolos radicalisés ? On parle de vous, les amis, vous dans le public, parce qu'on sait d'où ils viennent, les écolos radicalisés.
On les voit sur les plateaux de télé, et on les entend sur France Inter, dans une émission que je déteste, qui s'appelle La Terre au Carré, qui est une émission à un producteur, Mathieu Vidard, qui est dans l'excès permanent, qui est sectaire.
Et on embrasse Mathieu, bien évidemment. Enfin, vénérable Vidard, comme on l'appelle hein, dans les bureaux. C'est vrai quand on le croise... Oh là là,
vous Mathieu.
Il faut partie de la secte, j'en étais sûr. Non mais c'est terrible, dans son bureau ils vivent tous à poil dans la farine des potres. Ils chantent des cantiques d'Aurélien Barreau, tout c'est très flippant. Mais c'est moins flippant que les violences des agriculteurs, je trouve quand même.
Je pense que c'est inévitable, on peut pas. Je m'attendais pas à ce que le mouvement soit sans purin ou paille ou incendie. Il n'y a pas des dégâts qui nécessitent l'intervention des CRS ou de l'armée, hein, excusez-moi, mais c'est quand même pas d'attaquer l'Arc de Triomphe. C'était quand même inadmissible.
Ça, c'est inadmissible. Ça, l'Arc de Triomphe, c'est non, d'accord ? Il y a la boutique Balenciaga juste à côté, donc faites gaffe, hein. Qu'on pose des bombes ou qu'on fasse cramer des mutuelles agricoles, ça va. C'est à Narbonne, en plus qu'on a à foutre. On n'a même pas de maison de campagne à Narbonne, c'est pas le Cap Ferret. Sinon, Pascal Obispo, il aurait fait une tribune, mais là, on s'en fout, voilà. Les agriculteurs peuvent tout raser. D'ailleurs, est-ce qu'ils en font trop ?
Non, sûrement pas assez.
Est-ce que la violence, c'est une bonne solution à le...
Moi, j'appelle pas ça de la violence, j'appelle ça de la force.
Mais alors, casser une vitrine, est-ce que c'est de la violence ou de la force ? Si c'est une banque, pardon.
Ce serait de la violence un peu gratuite.
Oui, alors il y a des nuances, il y a des nuances. Casser une vitrine de banque, donc violence gratuite. Mettre des taux d'intérêt à 20% à des familles endettées, violence... Payante, suivez là, vous suivez rien du tout. On est nuls en violence, je trouve. Même nous, regardez avec des corps de lâche qu'on a. Il n'y a que Walidia qui est Jerry Baxic Fit, mais sinon. On est vraiment nuls. Allez, on conclut avec notre sauveur quand même.
J'imagine qu'il faut avoir l'écoute de Gabriel Attal à qui on fait confiance.
Est-ce qu'on peut faire confiance à Gabriel Attal ?
On ne peut que lui faire confiance.
Gabriel Attal ou il trust.
Bah oui. Eh oui, parce que c'est Gabi, je vous rappelle, qui est censée régler le problème, hein, parce que Macron fait les tours de carrosse à l'autre bout du monde. Bref, on est dans la merde, bah, y a plus qu'à la ramasser, puis à la lancer sur les préfectures, directement.
Guillaume Meurice, merci mon cher Guillaume. France Inter.
Les meilleurs moments.
Gilles Perret, bienvenue.
Bonsoir,
votre film La ferme des Bertrands. Il s'agit d'une famille d'agriculteurs
filmés à plusieurs époques. Alors il y a 1972, pour un petit bout d'archives, 1999 et 2022. Les deux autres époques, vous les avez filmées. Vous filmez à la fois le travail agricole, hein, vous êtes souvent un réalisateur et un documentariste du travail, et le versant humain. Ces agriculteurs se confient.
Il y a plusieurs centaines de milliers d'agriculteurs en France à l'heure actuelle. Pourquoi avoir mis votre caméra à deux reprises sur 25 ans à la ferme des Bertrands?
Par feignantise. Parce que...
je l'ai dit à Charline.
Non, parce qu'en fait, tout simplement, ce qu'il faut dire, c'est que la ferme des Bertrands, c'est la ferme voisine de ma maison. Moi, je suis né, j'ai grandi et j'habite toujours dans ce petit hameau de Quincy, en Haute-Savoie. Et donc, depuis que je suis tout petit, la ferme des Bertrands, c'est la maison d'à côté, quoi. Mais vraiment à côté, 80 mètres à peu près. Donc, mais mis à part ça, je reste persuadé que quand on filme nos voisins, on peut raconter l'histoire du monde.
Quand il y a une vache qui s'échappe, c'est dans le jardin.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
C'est pas légal, hein. Il faut pas filmer ses voisins.
C'est vrai. Ouais. Mais ils étaient plutôt consentants. Et puis, je savais aussi que j'avais des voisins qui avaient quand même des choses à dire. Et puis, c'est vrai que ça me permettait aussi de raconter une histoire sur le longtemps, puisque de 72 à 2022, ça fait que la ferme est filmée 50 ans. C'est quand même une opportunité. Pas tout le monde aussi a ses voisins qui ont été filmés en 1972. Donc, on est conscient d'avoir aussi cette archive.
Ça peut avoir une portée sociologique. Ça pourrait rentrer dans le travail d'un sociologue. C'est une histoire qui se passe plutôt bien, je tiens à le dire. Mmh. C'est une famille, une ferme qui marche bien. Ça, c'est en 2022, parce que quand on voit les récits des trois tontons, qui racontent, eux, leur vie, ils sont nés à peu près au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé de tout faire tout seuls, il y avait très très peu d'aide avec de la technique. Je prends des phrases qui disent au hasard, on travaille beaucoup trop, on a su faire que ça. Ceux qui sont partis ont eu raison.
Mmh. Oui, c'est ça.
C'est aussi une histoire, même si on part d'une ferme qui va bien, elle ne s'est pas construite sur du bonheur, de la facilité et un héritage facile.
Évidemment, ça a été beaucoup de travail. Alors, ça va bien aujourd'hui, mais ça va bien parce qu'il y a eu 40 ans de travail auparavant.
Parce qu'il y a eu 40 ans de sacrifice,
puisqu'il y a une phrase terrible de la part d'André qui dit c'est un succès sur le plan économique et c'est un échec sur le plan humain, mais c'est aussi révélateur de cette génération d'agriculteurs d'après-guerre où il y a eu énormément de célibat. Moi, quand j'étais gamin dans le village, tout le monde partait. Et eux, ils sont restés un peu par devoir, par mission, pour garder les terres en état. Et puis finalement, ils se sont mis à travailler. N'ayant pas de capitaux au départ, ils ont tout fait par le travail. Et pour avoir une ferme quand même très, très moderne et transmettre un outil de production, une ferme qui fonctionne bien et qui continue de bien fonctionner aujourd'hui, puisque on a la chance d'être dans une zone d'appellation d'origine protégée, qui est le Reblochon. Voilà, et ça change tout parce que.
N'est-ce pas, Aymeric? C'est votre rayon.
Je commence à écouter là.
parce qu'en fait, il faut dire ce que ça veut dire. AOP, c'est appellation d'origine protégée. Donc protégée, ça veut dire qu'il y a du protectionnisme. Et cette zone, en fait, on fait du protectionnisme sur une petite zone géographique. On met des barrières douanières et on dit sur cette zone, on va pas mettre le lait en concurrence avec le lait de plaine, le lait d'Allemagne, le lait de Pologne. Mais par contre, on va mettre des règles, beaucoup de règles sur la production qui contribuent à respecter le territoire et l'environnement.
Et parmi ces règles, par exemple, il y a la nécessité de faire sortir les vaches.
Ce qui pourrait paraître assez évident, mais enfin, il y a 150 jours obligatoires pour que les vaches aillent dehors. Il faut produire et consommer sur la zone. Il faut 2 traites par jour espacées de 10 heures. Pas droit à l'ensilage. Les intrants sont plafonnés. Enfin, et grâce à toutes ces règles, le lait est payé aux agriculteurs de cette zone 2 fois plus cher qu'aux agriculteurs de plaine. Et c'est ce qui leur permet de vivre dignement de leur travail. Donc voilà, je crois que par rapport au débat actuel, c'est pas mal de le préciser.
Alors, on est en pleine crise agricole. Est-ce que vous avez eu un massif et miraculeux coup de bol? Ou est-ce que vous aviez l'intuition qu'à un moment ou à un autre, ça allait péter?
On a eu un plan com qui était quand même sacrément élaboré. voilà la réponse.
Effectivement. Et vous, quelles conclusions ou quelles observations vous tirez de ces 2 semaines de mouvement social qu'on a connu? Je rappelle que vous habitez à côté de la ferme que vous avez filmée, des Bertrands, donc c'est un milieu que vous connaissez.
D'une manière générale, moi je suis assez content quand les gens sortent pour crier leur colère, parce que je préfère qu'ils aillent crier dehors, qu'ils se mettent au bout d'une corde.
Ouais.
Et donc, je trouve ça plutôt sain. Et puis, c'est bien normal que des gens qui n'arrivent pas à vivre, qui travaillent comme des malades, ils demandent à ce que ça s'améliore. Après, moi, je comprends que ces agriculteurs réclament moins de règles, par exemple, c'est sûr, parce que quand on est étranglé par les prêts, qu'on n'arrive pas à vivre de son travail, on dit, et puis qu'on est mis en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles, le premier réflexe, c'est de dire, enlevez-nous des règles. Est-ce que c'est très porteur d'avenir sur l'environnement et sur des perspectives, je ne crois pas. Quoi. Moi, je pense qu'il faut des règles, mais pas forcément sur les agriculteurs directement, en tout cas sur les complications administratives, mais il faut des règles sur le commerce international. On ne peut pas aller faire les marioles au salon de l'agriculture, à la gloire des bons produits AOP, etc., qui sont des produits de protectionnisme, et puis le lendemain, aller signer des traités de libre-échange avec le Mercosur, la Nouvelle-Zélande ou le Canada. Quoi. Donc,
il y a les bonnes et les mauvaises règles.
C'est ça. Mais surtout, il faut quand même toujours partir du principe que la règle, elle est là pour protéger les plus faibles, hein, d'une manière générale.
Dans l'idéal.
France Inter, le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
Tandis que les Bretons sont de retour, ils viennent de Brest et de Rennes, le duo Gwendoline a préparé une reprise spécialement pour cette émission, Joe Baker.
Bah oui, alors c'est une drôle d'idée, mais c'est surtout une sorte d'hommage aux boîtes de nuit de bord d'autoroute, aux pistes de danse des campings deux étoiles. En 1985, Jean-Pierre Madère chantait Macumba, et voici la version des Gwendoline.
Merci.
à quatre, Pierre Barrette, Mickaël Olivette, accompagné sur scène par Romain Rival et Jean-Philippe Jacques. Merci pour ce Macumba de Jean-Pierre Madère. Vous êtes en tournée en France et en Europe, Nantes le 24 avril, et à Paris, la Maroquinerie, le 11 juin. Merci beaucoup à vous, quel plaisir dans le grand dimanche soir. Alors, on a écouté ceux qui jouent de la musique, on va écouter ceux qui jouent à un jeu. Ici, vous pouvez gagner le cadeau le plus rigolo de France. C'est sa seule valeur, puisqu'on n'a toujours pas de budget, c'est donc le jeu 100 euros. À vous, Juliette, à vous, Guillaume.
Merci beaucoup. Oh là là, mais quelle ambiance. Merci, Charline Manoulaker. Et bienvenue à toutes et à tous dans le jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des...
Non.
Bonsoir, Juliette.
Bonsoir Guillaume, une fois encore. Il rit parce que j'ai failli mourir.
Oui, il y a une petite cascade. Que vous
les gens sont méchants. Une fois encore, nous avons sélectionné la crème de la crème, une candidate et un candidat dans le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.
Et Juliette, avec qui êtes-vous ?
Eh bien, je suis avec Margot. Margot, levez-vous et dites-nous comment vous vous appelez.
Margot.
Oh, oui, okay. Comme c'est joli. Margot, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ?
Je suis étudiante en lettres.
Très bien. Et si vous lisiez aussi ce qu'il y a écrit sur le papier ? Non, mais tout va bien, Margot. Vous avez le droit d'être étudiante en lettres. C'est bien les lettres. Alors, je recommence. Mais alors, Margot, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ?
Je fête la journée mondiale de la vie sauvage.
Oh, mais c'est charmant. Et vous faites ça comment ? Ah, oh, bah voilà.
Ah bon, c'était écrit alors.
Oui, il y avait tout un travail.
Depuis le début, depuis la première émission.
Depuis, tout est écrit. Même là, quand j'ai failli tomber, c'était écrit. Guillaume, quel est votre candidat ?
Oui, mais je suis avec Tom. Levez-vous, Tom, formidable. Quel est votre prénom, Tom ?
Tom.
Tom, ah bah voilà, comme Tom Holland, le fils de François. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Tom ?
Je travaille dans la restauration de monuments historiques.
Oh, intéressant. Vous travaillez sur quel bâtiment ?
Jacques Landé.
Oh là, oui. Il y a du boulot.
Et nous allons jouer, Guillaume, Tom, Margot, pour un magnifique cadeau.
Oui, Juliette, vous le savez peut-être, cette semaine, une clé USB contenant tous les plans de sécurité pour les JO de Paris a été volée dans un train. Eh ben, désolé, mais c'était moi. Voilà, elle est ici. Je voulais faire un beau cadeau. Voilà, pour le jeu 100 euros, elle contient non seulement les plans de sécurité, mais aussi le seum d'Anne Hidalgo. Donc, elle est vraiment...
C'est incroyable. Et tout ça dans un tout petit objet. Oui. C'est beau, la technique. Eh ben, Guillaume, c'est donc parti.
C'est parti pour le jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des...
Allez, on commence avec la première question, Guillaume.
Alors, Tom, concentrez-vous. Question. Une perquisition dans la propriété d'Alain Delon à Douchy a permis de retrouver quoi ? Trois propositions. La dignité de Juliette Arnault après 18h et 3 mojitos. Christophe Castaner. Et c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles de Christophe Castaner.
Oui.
Hein, et ça me dégoûte de voir à quel point vous n'en avez rien à foutre. Ou alors 72 armes à feu et plus de 3000 munitions, ce qu'en Corse on appelle la base. Alors, Tom, on vous écoute ?
Dernière réponse.
Oui, la réponse 3-1-0 pour Tom qui prend l'avantage. Bien joué, Tom. À vous, Juliette.
Allez, une question pour Margot. Margot, hier a commencé une nouvelle émission hebdomadaire sur CNews, animée par Laurence Ferrari. En gros, c'est une heure pour prendre du recul sur l'information brute. Et alors, elle va animer cette émission avec quel grand ou grande intellectuel ? Est-ce que c'est ? Réponse A, Annie Ernaux. Réponse B, Winnie l'ourson. Réponse C, Michel Onfray. Concentrez-vous, Margot. C'est la 3.
Michel Onfray ?
Oui !
Elle égalise !
Elle égalise, mais il va quand même falloir la départager. Et on va passer, donc sans plus attendre, à la question.
Bonus ! Bonus !
Alors, la question bonus, tout le monde s'en est bien rendu compte, c'est la crise, c'est l'austérité, il faut faire des économies, tout le monde doit se serrer la ceinture. Mais, selon le Canard enchaîné, de combien le Conseil constitutionnel a vu son budget augmenter ? On cherche, Tom, Margot, un pourcentage.
Alors, on commence par Tom, un pourcentage.
5%.
Il Margot. Est mignon, ce Tom.
Mais il est petit.
Il est jeune, il est petit, il est naïf.
Il dit des petits chiffres parce qu'il
mais
est petit.
Mais le monde, c'est de la merde, Tom. Tu vas l'apprendre bientôt.
Margot, un autre chiffre.
94.
Ok, donc un chiffre français peut-être. Merci pour le grand remplacement.
Allez, allons-y en langue française, Margot.
94.
Alors, eh ben, là, c'est Margot qui est proche parce que
bah, oui.
C'est 34% la bonne réponse. C'est Margot
qui gagne.
C'est mon petit cadeau. Bravo Margot, merci Tom d'avoir participé. Merci Juliette, on se retrouve la semaine prochaine pour le jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des...
Merci, on se retrouvera la semaine prochaine en public si vous le désirez. La billetterie est ouverte pour dimanche soir prochain. Rendez-vous sur le site maisondelaradioetdelamusique.fr.
Est-ce qu'on peut rappeler à Guillaume que quand même 34 c'est plus proche de 5 que de 95?
Alors, bon, écoutez, alors le truc, c'est qu'on s'était mis d'accord avec Guillaume pour faire gagner Margot, parce qu'on préfère Margot à Tom.
Voilà. Et en plus d'être écrit, c'est triché. Ah bah allons-y.
France Inter, le grand dimanche soir, le florilège.
Bienvenue, cher Cédric Kahn.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes à l'affiche du film Madame de Sévigné, film d'Isabelle Brocard. Karine Viard incarne Madame de Sévigné, passée à la postérité pour ses lettres. Anna Girardot interprète sa fille, Françoise, qui va se marier à votre personnage, le comte de Grignan, cher Cédric Kahn. Cher Cédric Kahn, on entend finalement assez peu les acteurs depuis le témoignage de Judith Godrèche et ses conséquences. Mmh. Est-ce que les acteurs, vous en parlez un peu, hein, entre vous. Vous n'avez pas préparé des éléments de langage à ce sujet.
C'est quoi la question?
Est-ce que vous ne trouvez pas que les acteurs en parlent assez peu? Ou alors on ne leur pose pas la question, peut-être. Vous êtes mal tombé, vous êtes tombé sur moi.
Et là, on vous la pose.
Non, mais c'est quoi la question? C'est quoi
Qu'on n'entend pas.
Parler, commenter.
Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Judith Godrèche?
Il n'y a pas d'affaire Judith Godrèche. Elle dénonce des agissements. Je pense qu'elle a raison. Si elle a des choses à dire, si elle a raison de les dire.
Mm-hmm. Oui, c'était l'idée que les acteurs, on les entend moins. Quoi. Bon.
Disons que moi, je suis pas à l'aise avec cette période d'opprobre, de délation, tout ça. Ça me colle de mettre des têtes sur des piquets. Ouais.
Vous êtes attaché à la présomption d'innocence, tout simplement.
J'aime pas qu'on dénonce des gens et qu'on raconte des détails sur la vie privée. Mais par contre, je suis tout à fait pour la dénonciation d'un système. Mm-hmm. Ah. Ça, je trouve ça très intéressant.
Il y a de quoi.
Oui, et d'ailleurs, ça dépasse bien le cadre des affaires sexuelles. Le cinéma, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pas très saines.
Mais c'est ce que vous racontez justement dans votre dernier film, Making of. C'est un endroit qui a un lieu de verticalité et d'une hiérarchie très très forte.
Et de violence capitaliste. Il y a l'argent joue un rôle énorme, et quand les gens ont du pouvoir dans le cinéma, on leur autorise beaucoup de comportements. C'est vrai.
Vous pensez qu'un jour il y aura un film sur ça? Parce que je vous pose la question, c'est délibéré, c'est parce que vous, en général, vous traitez deux faits réels, que ce soit Roberto Zucco, La vie sauvage, ou plus récemment le procès Goldman. Ça vous plaît plutôt de vous confronter à une chose qui s'est réellement passée. Il pourrait y avoir un film qui raconterait ce genre d'affaire qui en ce moment est dénoncé par les actrices?
J'imagine, moi, ouais, bien sûr.
Vous le feriez?
Je sais pas.
Si c'est dans la Drôme, oui.
Je suis pas sûr d'être la meilleure personne. En tout cas, oui. Mais déjà, pour moi, le making-of, c'est le début de ça. Ça dénonce quand même une forme d'abus de pouvoir. Disons que je pense que l'abus de pouvoir, c'est un vrai problème. Mm-hmm. Mais je pense que ça concerne tous les métiers, d'ailleurs.
Et je pense qu'il faut
éduquer les enfants, les jeunes gens à détecter l'abus de pouvoir, à savoir quand l'ordre est hors cadre. Et je pense que les affaires d'agression sexuelle rentrent dans cette définition-là.
Mais comment les enfants ils peuvent le détecter si on leur apprend à l'école que le pouvoir, c'est une chose importante?
Mais moi, je ne suis pas contre le pouvoir, je suis contre l'abus de pouvoir, ce qui n'a rien à voir. Je pense que ce qui est compliqué, c'est quand le pouvoir déborde de son cadre.
Et vous sentez, dans le milieu du cinéma, qu'il y a une fracture aujourd'hui, et que... Bon, le malaise, on le sent tous, mais une fracture...
Moi, je le sens depuis que j'ai démarré le cinéma. C'est quand même un milieu... parce que d'abord, c'est un milieu où travaillent des très jeunes gens. Je veux dire, ça c'est quand même très particulier. Je crois qu'il y a le théâtre, mais il y a des enfants et des adolescents qui ont des contrats de travail. Je veux dire, c'est quand même unique dans le monde du travail en général. Au nom de l'art, il y a beaucoup de choses qui sont tolérées. en fait, au nom de la création. C'est-à-dire que la frontière est très limite entre le fait de ne pas censurer un artiste et les excès. Donc ça crée des frontières floues qui sont difficiles. Il y a aussi, on parle peu, je trouve, du rôle des parents. L'ambition des parents pour leurs enfants, leurs adolescents, je pense, crée les conditions de ce genre d'affaires.
Mais c'est une question.
Je trouve que c'est un peu l'angle mort de tout.
C'est une question que vous, en tant que réalisateur, vous êtes posée quand vous avez fait tourner Isilde Lebesco, qui était très jeune à l'époque de Roberto Zucco.
Moi, j'ai fait tourner plein d'enfants et plein d'adolescents, et ça m'a toujours posé un problème. Je me suis dit, je les fais rêver, ils croient qu'ils vont continuer leur vie dans le cinéma. Je savais, même si ça se passait bien, je sais que ça crée une forme de violence d'être exposé comme ça, d'être sur une affiche ou de faire des émissions de télé. Puis hop, d'un coup, ça disparaît. J'ai fait tourner un jeune garçon dans Une vie meilleure avec Guillaume Canet et Leïla et tout ça. Enfin, et en même temps, j'en ai besoin de ces adolescents et de ces enfants pour raconter les histoires que je veux raconter. Mais ça m'a toujours posé un problème.
France Inter. Le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
À cette heure-ci, j'espère que chez vous, en tout cas, le cartable est prêt pour demain. N'oubliez pas le journal de classe, sinon ça va encore faire des histoires. On prépare aussi le journal dans les rédactions en Paris, en région. Les journalistes sont en train de boucler leurs articles pour demain. Quel sujet hisser en une, avec quel titre? Eh bien, on va se glisser dans ces rédactions.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de CNews.
Bon, demain, l'IVG sera inscrit officiellement dans la Constitution. Oui, je sais. On fait quoi?
On demande une mutation en Argentine ou on boit un coup?
Non, mais d'accord, mais on fait quoi à l'antenne?
On boit un coup.
Ou alors on fait une journée de deuil nationale.
Ou alors on boit un coup pour oublier ça.
Oh là là, elle est pénible, Elisabeth Lévy.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de IVG Magazine.
Wouh, on voit un coup.
Vous fêtez l'inscription de l'IVG dans la Constitution?
Ah non, oh là là, qui propos? Non, rien à voir. C'est EVG Magazine, enterrement de vie de garçon magazine, là, nous.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de Libération.
Alors, demain, c'est le congrès de Versailles pour l'IVG. Quel titre on met à la une?
Moi, je mettrais bien genre une urne de vote et on écrit « avorté ».
Ah, ouais. Pas mal. Quoi d'autre?
On boit un coup?
Non, mais change de personnage.
Mais ce n'est pas un personnage qui...
Pendant ce temps-là, à la rédaction de VGE Magazine.
Oui, Chamalier.
Ah oui, excusez-nous. Françaises, nous, c'est Valérie Giscard d'Estaing Magazine.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de Cosette.
L'IVG entre dans la Constitution. Wouh ! Allez, on boit un coup.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de Libération.
Bon, est-ce qu'on a d'autres idées de titres pour demain?
Ouais, les anti-IVG sont morts dans l'œuf.
Moi, je propose...
Ta gueule, ta gueule.
Un petit coup.
Ta gueule, ferme ta gueule. Non, on n'en peut plus. Arrête.
Un mini coup.
Mais attends, ce qu'a picolé, c'est pas possible.
Ah bah tiens, justement.
C'est pas vrai.
Transition. En parlant de picolé.
Oh, je sais.
Est-ce qu'on s'écouterait pas une petite chronique d'Emeric Lombard?
Le grand dimanche soir, le florilège.
Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Alors, mais là, j'ai rien entendu. Délire. Eh, vous devez deviner qui je suis. Emeritus. Rigolez, c'est mon anniversaire. On dit aujourd'hui, vous êtes obligé de rigoler à ma chronique. Ce sera un peu votre cadeau. Même si votre présence est déjà un très très beau cadeau, parce que sans vous, je suis rien. Le public, c'est mon oxygène, c'est ma raison de vivre. Le public, c'est un joyau dans un océan grand comme un grand pan. L'autre fois, on en parlait avec Guillaume, on se disait, putain, sans le public, on est rien. Et lui disait, ouais, surtout, j'ai pas de chronique. Allez, c'est parti pour l'actualité. Vous avez vu, le Conseil d'État a dit que le Rassemblement National était d'extrême droite. Ouais, le caca, c'est du caca. L'eau, ça mouille. Le jazz, c'est insupportable. Le jazz, c'est insupportable. Je suis allé à un concert lundi de jazz, mais l'enfer, l'enfer. Le mec qui était à côté de moi, il était là. C'est quoi ton morceau préféré? Putain, j'en sais rien, c'est le même depuis 2h30. Alors là, je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Tu veux une coupette, hein? Non, je te demande si tu veux une coupette. Chut, taisez-vous! Là, devant, le solo de triangle va commencer. Ding, ding, ding. C'est un génie. Putain, vous aimez bien le jazz en vrai? Non, mais je suis vendeur de triangle. Et ça marche bien? L'instrument? Non, mais les sandwichs, oui. Rigolez, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Alors, bon, je vois les mauvaises langues dire ouais, ça va, ils se touchent, le Conseil d'État. C'est pas des questions non plus de ouf, quoi. Le RN est-il d'extrême droite? Vianney doit-il chanter? Éric Ciotti, être humain ou gousse d'ail? Non, mais c'est vrai que pour savoir si le RN est d'extrême droite, faut pas se lever à 8h, tu vois, du matin. Contrairement à la question, pourquoi ne pas faire des housses de couette qui s'ouvrent en deux? Voilà.
Bon. Ça dénonce.
Elle était forte, la chouffe. Non, mais attends. Mais à leur décharge, en fait, c'est le Rassemblement National qui a demandé au Conseil d'État de ne plus être qualifié d'extrême droite. Et le Conseil d'État, il a dit, si, vous êtes bien des fachos. Après, les fachos, ils étaient là. Ah ouais? Mais comment vous pouvez dire ça? Bah, votre parti a été créé par un Waffen SS et un éplucheur d'Algériens. Vous êtes xénophobe, raciste, nationaliste, sécuritaire. Vous voulez réserver les aides sociales aux Français, supprimer le regroupement familial, révoquer le droit du sol, éradiquer l'islam et interdire la sauce algérienne. Après, Jordan Bardella, il était là. Igné. Le Conseil d'État, il a fait pardon, igné, pardon, igné, pardon. Chut, excusez-moi, si vous n'aimez pas le jazz, vous n'êtes pas obligé de venir au concert, ok? Non, mais tellement l'échiquier politique, il s'est décalé à droite. Le Conseil d'État, il a dit que LFI et le Parti communiste, ils sont plus d'extrême gauche, ils sont juste de gauche. Mélenchon, il était deg. Il s'est endormi, c'était Karl Marx, il s'est réveillé, c'était Olivier Faure, quoi. Et les éditorialistes, pareil, hein, Routel Krief et Nathalie Saint-Cric, elles étaient en crise d'épilepsie. Mais ils sont extrêmes, c'est pareil les extrêmes, c'est pareil. Nathalie, partons sur une île déserte, loin du prolétariat. Oui, Ruth, partons tous les deux, main dans la main. Chut, personne ne vous oblige à venir voir du concert de Jan. Merci de m'avoir écouté.
Aymeric Lompré, dans ses œuvres, à revoir sur YouTube éventuellement.
Grand dimanche soir, les meilleurs moments.
Et voici en direct, en public, la petite chanson de Frédéric Fromet, bien sûr.
Bonsoir. Alors, sur un tube de Joe Dassin, réarrangé pour les enseignants de l'école publique, hommage à la ministre Amélie Oudéa-Castéra.
Nous sommes les grosses feignasses du Paris 6e, une drôle d'école catholique. Ou si t'as pas fait ton baptême, t'es une racaille satanique. Il y a l'école de Jésus-Christ dans les yeux d'Amélie. Entre soi à l'abri pour catho tradit. Il y a l'école de Jésus-Christ dans les yeux d'Amélie, bourgeoisie garantie, pas de tarif réduit, c'est pire que le Rotary.
Quand Stanislas a pour devise français sans peur, chrétien sans reproche, est-il besoin que l'on précise que c'est pas souvent la bamboche?
Nous sommes les grosses feignasses du public dans les yeux d'Amélie. Les heures pas remplacées, on préfère pioncer. Nous sommes les grosses feignasses du public dans les yeux d'Amélie.
arriver, même si on dirait qu'elle s'est un peu fait prier. Il y a le mensonge et la tromperie dans les yeux d'Amélie, au point qu'on en oublie Rachida Dati. Il y a le mensonge et la tromperie dans les yeux d'Amélie, ancienne tenniswoman. C'est tout à fait normal d'être ministre à deux balles. Le sport aurait sans doute suffi dans les yeux d'Amélie.
Merci Frédéric Fromet.
Et voilà, c'est la fin de ces florilèges. Merci à l'équipe qui prépare cette émission, Alexia Lacour à la programmation, François Audouin à la réalisation, Ramzi Assadi, rédacteur en chef d'orchestre et co-auteur avec Xavier Naud et Romain Forgeor. À la prise de son, merci à Laurent Baudouin et à Julien Thévenot pour le mixage. Et en général, pour toutes ces émissions, merci aux hôtes et hôtesses d'accueil, aux services de sécurité, aux différents services techniques de la Maison de la Radio et de la Musique, son, lumière, vidéo, régisseurs et régisseuses du Studio 104, les machinistes, les techniciens qui nous suivent également en déplacement. Merci à Célia Dufour qui coordonne toute cette équipe avec Antoine Melin, Emmanuel Perrault, Pascal Vestrelin et Gaël Michel. Oui, c'est toute une équipe qui vous propose ce grand spectacle radiophonique que vous pouvez venir voir. La billetterie est d'ailleurs ouverte pour dimanche prochain en direct et en public.
Le grand dimanche soir. Sur France Inter.